Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la seconde partie de notre thème en mode vidéoclub. Bien avant Netflix, Amazon ou Disney+, et bien avant le DVD aussi, la première façon de voir les films de son choix à la maison bien calé dans son fauteuil, c'était d'avoir un magnétoscope et d'aller au vidéoclub, ces supermarchés de la vidéo où l'on avait accès pour la première fois à un catalogue déjà bien fourni de films.
1982 est l'an 1 de la vidéo d'amateur. Le magnétoscope entre dans les mœurs. Les catalogues de cassettes rassemblent maintenant des milliers de titres. Du coup, un peu partout, on voit fleurir une toute nouvelle sorte de magasin, les vidéoclubs. Dans celui-ci, les clients louent jusqu'à 5 cassettes à la fois pour une durée laissée à leur discrétion. On peut même louer le magnétoscope.
Vous louez combien de cassettes par semaine ?
Environ 10 à 12.
Mais à la fin, c'est pas un peu fatigant ?
Oui, de temps en temps, c'est un peu fatigant, mais quand on aime bien le cinéma...
Ça fait une vingtaine d'heures devant la télé, quand même.
Ça fait une vingtaine d'heures devant la télé, oui, à peu près.
Avec mes deux camarades, Mick et Tib, nous poursuivons la remise en lumière de certains de ces films qui symbolisent à nos yeux parfaitement cette époque. Allez, Tib, c'est toi qui commence une nouvelle fois.
Alors, je vais attaquer un film que j'adore
du dur, là.
Et que j'ai revu, que je revois régulièrement. Ouais. On va parler de l'adaptation en film de la quatrième dimension, de la série télé des années 50, 60, voilà, et en noir et blanc, et puis après, il y a eu une version couleur, etc. Donc, et là, on a eu donc plusieurs réalisateurs qui se sont mis ensemble pour tourner ce film. Donc, on a John Landis,
Steven Spielberg.
Steven Spielberg et
Joe Dante.
Joe Dante, merci.
Et George Miller.
Et George Miller. Donc voilà, que du lourd, hein, que du lourd. C'est un super. Moi, c'est un film que j'adore. Bon, les épisodes sont pas tous égaux. Il y a des épisodes. Bah, après, c'est ça parle un peu à différentes personnes. Les épisodes vont pas plaire. Je crois qu'on va en parler. À mon avis, on va en parler un petit moment parce que je pense qu'on a tous les trois des choses à dire. Voilà. C'est typiquement de la vidéo. C'est des films que j'ai pas vus au cinéma, mais voilà, ça a été loué en cassette et ça a peut-être même été loué en cassette plusieurs fois, même, je pense.
Pour ouvrir cette porte, une clé, l'imaginaire. Au-delà s'étend une autre dimension. Une dimension du son. Une dimension de la vue. Une dimension de l'esprit. Vous vous déplacez à la frange de l'ombre et de la substance, des choses et des idées. Vous venez de pénétrer dans la quatrième dimension.
Moi, c'est pareil, je l'ai découvert en location de vidéoclub. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Il y a déjà dans son histoire qui est très très riche et pas forcément heureuse, notamment pour John Landis. Je pense qu'on en parlera parce que c'est un film qu'on va aborder à un moment ou à un autre en grand format parce que c'est un film. Voilà, ce que je disais, c'était.
C'est culte.
C'est déjà culte. C'est une histoire de production très riche dans tous les sens du terme. Mm-hmm. C'est un film. Alors, je dirais pas que les quatre sketchs sont inégaux. C'est quatre univers différents. On a quatre réalisateurs différents avec leur propre univers et leur univers
transparaît
totalement dans chaque segment du film. Et donc, ça fait un film qui peut paraître déséquilibré, mais qui l'est pas. En tout cas, pour moi, qui l'est pas. Moi, je les trouve tous très bien, tous différents, mais tous très bien. Ça dure, je sais plus, 1h50, je crois. Non, vraiment, voilà. Après, moi, j'ai mes segments préférés, forcément.
Sûr, ouais, moi, je suis un peu moins fan de celui de Spielberg. Mais j'adore celui de Joe Dante, qui est super cartoonesque, qui est super...
malaisant aussi. Ouais, c'est un cartoon malaisant.
Qui est assez génial.
Moi, c'est le John Landis que je préfère. Même si j'aime aussi, j'aime bien le George Miller.
Ouais, moi aussi, c'est mon préféré, George Miller.
C'est cohérent, tout est cohérent et c'est une belle production. C'est un film aussi qui à un moment est passé à la télévision et est un peu disparu des radars et de manière assez injuste finalement parce que vraiment c'est encore aujourd'hui et la séquence d'intro aussi parce qu'on en a pas parlé. Il y a quatre segments, mais il y a une séquence d'intro tournée aussi par John Landis et qui est très très bien.
Je vous fais confiance.
Forcément, les films d'anthologie comme ça, il y a toujours des préférences pour l'un, pour l'autre, etc. Moi, je pense que mon préféré reste quand même celui de George Miller. Hein. C'est l'histoire d'un mec interprété par John Lithgow qui est dans un avion et il pense voir une espèce de créature sur l'aile de l'avion et il a peur, etc. Et c'est quelqu'un qui a peur en avion, donc les gens ne le croient pas forcément. Voilà.
Oh mon Dieu! Il y a quelque chose là-dehors! Sur l'aile.
Qu'est-ce qu'il a dit?
J'ai
où ça?
Un homme sur l'aile de l'appareil.
Quoi?
Et où?
Il dit qu'il y a un homme dehors.
Où?
Il y a quelqu'un? Je vois rien, moi. Il n'y a rien du tout, c'est évident.
Il y avait un homme là-dehors. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai.
Oui, je l'ai vu. Tout vert et tout poisseux.
Laisse donc ce brave homme tranquille.
Mais c'est pour éviter que je dis ça, faut toujours aller dans leur sens.
Ces quatre épisodes qui sont plus ou moins des reprises hein, des épisodes déjà tournés dans les années 60 hein, par l'équipe pilotée par Rod Sterling, mais on a à chaque fois le caractère de chaque réalisateur qu'on voit très très bien, comme vous l'avez mentionné. Et chez Joe Dante, il y a aussi des images qui restent à vie, quoi. Je revois, moi, cette fille qui regarde la télévision, qui n'a pas de bouche, parce que le gamin, en fait, voilà, on a une femme, une jeune femme, qui va arriver dans la famille d'un jeune garçon qu'elle a croisé, et on sent bien que la famille, elle est tenue par le gamin qui a des pouvoirs psychiques un peu particuliers. Et donc, voilà, pour empêcher sa sœur de parler, il lui a enlevé la bouche. Quoi.
Vous vous rendez compte que jamais vous ne sortirez d'ici? Vous croyez que c'est par accident que vous êtes dans cette maison? C'est lui qui vous a amené. Il vous a fait venir ici, comme il nous a fait venir. Et il nous a emprisonnés, comme il vous emprisonnera. Peut-être qu'il s'emportera contre vous comme il l'a fait contre sa vraie sœur. Et qu'il vous mutilera en vous supprimant la bouche pour couper court à tous vos reproches.
Et donc ça, c'est des trucs qui sont vraiment très étonnants. Celui de Spielberg qui parle de l'enfance et de la vieillesse et tout ça, qui a été un épisode qui a été réécrit très très vite en fait, parce que c'était pas celui qu'il devait réaliser. Hein. Il faut savoir que c'est lui qui pilotait la production du film. Et pour plein de raisons malheureuses hein, sur le film, il a fallu qu'il change son fusil d'épaule, on va dire.
Ça fait très cocoon, cet
épisode. Et celui-là, ça fait très cocoon, voilà.
C'est Ron Howard, mais bon, ça fait vraiment très cocoon.
Mais il a vraiment ses qualités. Et celui de John Landis est très intéressant aussi, à propos du racisme et tout ça. Et je termine aussi par le prologue aussi, parce que moi le prologue m'avait aussi saisi tout de suite, j'étais dans le bain, parce qu'en fait il y a quelque chose qui nous amène progressivement dans le récit. On voit cette voiture qui se découpe au milieu de la nuit, voilà, et il y a un autostoppeur qui a été pris donc en stop par un gars, et l'autostoppeur en question c'est Dan Aykroyd.
Hé, hey, vous avez vraiment envie de claquer des dents?
Et comment?
Hein? Vraiment?
Ouais.
Alors attention, hein, vous allez vraiment, mais vraiment claquer des dents.
Je vous fais confiance.
Bah alors...
Faites-moi peur.
Vous êtes prêts, là?
Ouais, ouais, allez-y.
Sauf qu'il va faire quelque chose, voilà.
Pas de spoil, pas de spoil, pas de spoil.
Et surtout... Il y a les Creedence, le groupe mythique des années 70, hein, Creedence Clearwater Revival, qui interprète une chanson qu'on entend à la radio, que je trouve géniale, et qui a été aussi un point d'amorce, en fait, pour moi, pour mon amour pour ce groupe-là, quoi. Voilà.
Moi, je reviendrai aussi sur ce format de film à sketch qui a fait d'autres petits plus tard, comme Amazing Stories,
toujours produit par Spielberg,
qui était assez super. Il y avait des histoires avec un avion, avec des pneus en BD, en dessin animé. Il y avait des voilà, et ça, c'était encore des trucs des souvenirs de cassettes vidéo à les louer. Ces trucs que j'adorais, Amazing.
Et réalisé par des bons réals, bon, comme Zemeckis, Mick Garris. Il y a pas mal de réals de l'époque, de très bons réals de l'époque, qui ont réalisé des segments de ce qu'on appelait histoire fantastique. Ils avaient sorti une sélection de ces sketchs-là, ils en avaient fait une compile, ils les avaient sortis en salle. Et ensuite, ils avaient tout sorti en VHS. Et donc, ouais, c'était aussi des films qu'on allait louer au Vidéoclub.
Il faut préciser aussi que les films, la quatrième dimension, le film, on regroupe quatre réalisateurs qui sont des gamins de la télévision des années 60, qui ont grandi avec, qui ont une vraie déférence pour la série La quatrième dimension. Et chez Spielberg, c'est pas un hasard si l'affiche de Rencontre du troisième type, c'est une route qui mène sur nulle part, etc., comme dans les génériques de La quatrième dimension. Ouais. Tout ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. C'est pour ça qu'il a aussi alimenté la machine avec Histoire fantastique et tout ça. Je pense qu'il y a une vraie marotte chez lui à ce sujet-là.
Alors, encore une fois, toujours dans l'esprit Vidéoclub, je vais vous parler d'un film d'horreur qui est sorti en 88, discrètement dans les salles françaises, et que j'ai découvert en le louant en Vidéoclub. Hein, un film qui était sorti chez CBS Fox et qui s'appelle Panix.
Après la nuit, commence un nouveau jour. Le jour de l'unité. Parfois, un simple instant de folie.
Notre amour ne mourra jamais.
Alors Panic, c'est une petite série B horrifique. J'avais pas pu la voir en salle à l'époque, comme je le disais, parce que le film n'est pas resté très longtemps à l'affiche. Et en fait, j'avais envie de le voir parce que j'étais surtout attiré par cette affiche qui est extrêmement graphique et qui attire toujours l'œil aujourd'hui. Alors Panic, c'est l'histoire de Cynthia qui se réveille après 13 ans de coma. Elle était la seule survivante d'un suicide de masse dans une secte. Et après son réveil, elle se retrouve traquée par le fantôme du gourou de cette secte qui veut achever son œuvre, en fait. Alors, c'est avec Jennifer Rubin, une jeune actrice qu'on a vue notamment dans Freddy 3. Bon, elle n'avait certainement pas été choisie au hasard, mais ça, je vais vous les expliquer après pourquoi. À ses côtés, il y a aussi Bruce Abbott, qu'on a vu dans Reanimator. Et le gourou, il est incarné par Richard Lynch. Richard Lynch, c'est un mec avec, c'est un second couteau avec une vraie gueule de méchant qu'on avait vu notamment dans Invasion USA avec Chuck Norris. Alors Panic, c'est un slasher dans la même veine des Freddy, justement. Et pourquoi je parlais de Jennifer Rubin tout à l'heure? Parce que, en fait, les détracteurs en fait, de Panic pensent, et peut-être un peu à juste titre, que le scénario de Panic est totalement pompé sur celui du troisième volet de Freddy qui se passait dans un hôpital psychiatrique. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de similitudes, mais bon. En faisant abstraction de ça, c'est quand même un slasher assez efficace, assez rythmé. Hein, le film est hyper court, il fait 1h20, 1h25, un truc comme ça. Avec quelques scènes choc plutôt bien troussées, plutôt bien foutues. Et c'est vraiment le genre de film qu'on aimait louer à dos un samedi soir, pour se faire un peu peur. Même si celui-ci, vraiment, bon après, même aujourd'hui, on va pas dire que c'est pas le film le plus effrayant du monde. Mais bon, moi je l'ai toujours bien aimé, je l'aime toujours bien ce film.
Come to me, sir.
C'est un film difficilement visible pourtant parce qu'il est disponible sur aucune plateforme, il n'est pas sorti en DVD, en tout cas en France. Il existe un Blu-ray sorti chez 88 Films en Angleterre, mais avec de l'anglais uniquement, avec une piste anglaise uniquement. Mais après voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment un film, une série B. Il y a beaucoup de séries B des années 80 qui aujourd'hui sont quasiment irregardables, et celle-ci elle tient encore la route, et c'est un vrai film d'épouvante, injustement oublié à mon sens.
Moi c'est un film que j'ai vu au cinéma en plein été avec mes parents.
T'as eu du bol parce qu'il n'est pas resté longtemps.
Hein. C'était de toute façon très gamin. J'ai été fan de films d'horreur et tout ça. Donc je traînais un peu mes parents. J'avais pas beaucoup besoin de forcer beaucoup ma mère non plus. Et on est allé voir celui-là. On l'avait pris un certain plaisir. C'est une petite série B, hein, sans prétention. Faut vraiment pas s'attendre à. C'est pas Shining quoi. Hein. Mais ça vraiment ça fait la blague. C'est bien construit. Les séquences sont quand même assez angoissante. J'ai souvenir aussi de, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas revu, j'ai souvenir aussi qu'il y a une très belle utilisation d'une chanson des années 60 ou 70 des Chamberlain Brothers, Time Has Come Today. Time has come today. Richard Lynch est assez flippant dans le film. Les maquillages sont plutôt efficaces. Pourtant, on était un peu dans le creux de la vague dans la fin des années 80 sur... Ça amorçait déjà un peu le vide qu'on allait un peu avoir sur certaines séries B horrifiques dans les années 90. Ça commençait un peu à... dans cette zone-là, quoi. Mais celui-là tire son épingle du jeu parce que ça fonctionne bien. Il y a un bon doute sur ce qui est réel, ce qui est irréel dans la tête de la jeune fille. Ouais, ce qui est assez marrant, c'est que le réalisateur Andrew Fleming va réaliser, genre 6 ans plus tard, Deux garçons, une fille, trois possibilités, une comédie romantique entre deux garçons et une fille. Et il est parti dans complètement autre chose pour ensuite revenir sur Dangereuse Alliance, qui lui est beaucoup plus connu, mais que je trouve beaucoup moins intéressant, moi, personnellement.
Et alors, il faut préciser aussi que même si c'est une petite série B, elle a été produite par Galen Hurd, qui était la première femme de James Cameron et qui avait produit Terminator 1 et Aliens le Retour.
Moi, j'ai pas grand chose à dire, sauf que c'est un film que j'avais loué à l'époque pour l'affiche, hein, évidemment. Cette cassette avec ce couteau qu'on voit passer sur l'œil avec une main et deux yeux complètement exorbité, bon, panique, voilà, bon, c'est sûr, ça c'était vendeur, donc je l'ai loué, je sais que j'en ai un bon souvenir, mais je l'ai jamais revu depuis, il faudrait que je le revoie.
Dans un registre totalement différent, moi, je voulais vous parler de Risky Business.
Ouais.
Voilà, un film que j'adore.
Tintin.
Justement, une scène mythique au début du film,
tellement parodiée, reprise.
Mais pourquoi parodier, pas parodier, c'est un hommage.
Ouais, ce sont des hommages.
Dans des émissions dans le Saturday Night Live, dans plein de choses, ils l'ont parodié.
Dans Alf, et aussi dans Une Nounou d'Enfer.
Bah oui, juste pour replacer pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, le film s'ouvre sur un Tom Cruise qui est seul chez lui, ses parents... très riches, hein, sont partis le temps d'un week-end et il s'éclate tout seul, il est en slip avec une chemise et il fait une sorte de karaoké sur Bob Seger qui chante le bon vieux temps du rock'n'roll, quoi. On va suivre justement un Tom Cruise très très jeune qui va appeler une call girl qui est interprétée par Rebecca de Mornay et qui va commencer à se dire, tiens, il y a peut-être moyen de se faire un business autour de la prostitution, quoi, disons-le clairement. Il va tomber amoureux de la call girl qu'il a appelée. Il y a un petit écart d'âge qui est assez intéressant d'ailleurs. Et il y a plusieurs séquences qui sont assez marquantes. Il y a justement une séquence de rapprochement, on va dire tactile, entre les deux dans un métro, sous la musique
de Tangerine Dream,
le groupe électro, qui fait une musique assez éthérée et ça rend cette séquence assez magique.
D'ailleurs, au passage, ce thème a été réutilisé dans la série Black Mirror. Juste une aparté sur le groupe Tangerine Dream, l'un des précurseurs de la musique électro, hein, et qui a signé pas mal de BO, notamment dans les années 80. Celle du Convoi de la peur de William Friedkin, celle des deux premiers films de Michael Mann, Le Solitaire et La Forteresse Noire, celle de Legend aussi, de Ridley Scott, et ils ont surtout signé le thème principal de la série Tonnerre Mécanique. Pour en revenir au film, c'est vrai que cette séquence dans le métro, elle reste quand même toujours hyper mythique aujourd'hui, quoi.
C'est assez fabuleux. Et ce que je trouve intéressant dans le film, c'est qu'il y a un commentaire, en gros, sur les années fric, hein, des années 80 qui se mettent en place et qui atteint justement les youpies, c'est les la fameuse tranche, la catégorie de gens qui baignent un peu dans le fric, quoi, américains, qui font tout pour le fric, et avec beaucoup de cynisme, tout ça. Et il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette comédie de mœurs qui peut paraître juste un peu racoleuse au départ, et qui est beaucoup plus profonde qu'on le pense au premier abord, et qui mériterait même un express. Peut-être pas un grand format, mais au moins un express, quoi.
Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, de positif surtout. Bon, tu as tout dit, hein, c'est une excellente satire sociale qui fonctionne toujours aujourd'hui. Hein. Pas si légère que ça, beaucoup plus profonde et cynique qu'elle n'en paraît. D'ailleurs, en le voyant, on pense forcément au lauréat. Risky Business traite également de manière intelligente l'adolescence masculine, en tout cas, et l'éveil à la sexualité. Et aussi le passage, la transition entre l'âge, entre l'adolescence et l'âge adulte.
Joël, est-ce que c'était bien cette nuit ?
Oui. Rien à dire, c'était super. M'annonce pas que je te dois encore $300.
Joël, va en classe, tu as encore à apprendre.
Alors ce film, je me rappelle, je l'ai loué, mais alors... pas par hasard, mais parce que j'étais un peu dépité, parce que je voulais louer quelque chose qu'il n'y avait pas, et je me suis rabattu sur ce film là alors avec cette police en fluo qui faisait un peu Miami Vice, tout ça, la voiture, les lunettes, mais je m'attendais pas à ça du tout, quoi. Mais franchement, je l'ai même regardé deux fois dans le week-end, dont la scène au moins de où au moins gossif.
Bah c'est vrai qu'en plus, bon, quand t'es adolescent et que tu vois un film pareil, il y a quelque chose qui te rend... la jeunesse de Tom Cruise fait qu'il y a une sorte d'identification immédiate, et tu te dis, oh la vache, voilà, Rebecca de Mornay, elle est quand même très jolie, il y a un truc, voilà. Mais c'est vrai que l'affiche, étrangement, c'est un peu pareil que toi. Moi, l'affiche, elle me rebutait un peu au départ. Je disais, ouais, bon, ça doit être une petite comédie un peu bon lambda. Et c'est toi, Max, qui me l'avais prêté. Tu l'avais, en fait, et tu me l'as fait découvrir. En me disant, non, regarde ça, c'est vachement bien. Et j'ai été hyper étonné, quoi. Quand j'ai découvert le film, j'étais là, wow. Et j'ai dû le découvrir à peu près à la même période que After Hours, justement. Et toute une série comme ça de films qui se passent la nuit. Il y a aussi Les Feux de la Nuit ou un truc comme ça avec Michael J. Fox. Ouais. Et voilà, il y a ces trucs-là où un film dont on parler un peu hors antenne qui s'appelle The Boys Next Door, où ça c'est un périple avec Charlie Sheen et son copain qui tue des gens. Il y a les films nocturnes comme ça où on renvoie à la solitude, à nous-mêmes aussi, à l'introspection et tout ça. Il y a eu une petite vague comme ça dans les années 80, pas forcément connectée, hein, mais moi j'y vois du lien. Et dans ce film-là, c'est très prégnant, c'est assez marrant.
Et puis depuis, il y a eu quand même un film nocturne dont tout le monde a parlé, qui s'appelle Drive, et qui est quand même pas un mauvais film non plus.
Ah, tout à fait. Voilà.
Dans un genre totalement différent, encore une fois, hein, parce qu'on va essayer de passer sous... Alors moi, je vais vous parler d'un film que j'ai vu à la télé, voilà, et que j'ai reloué plus tard, parce que j'avais pas pu l'enregistrer, j'étais un peu dégoûté, donc... c'est un film, parce que moi, j'adore les films avec des avions, et j'adore les films avec des histoires des histoires temporelles, voilà, et là, donc j'ai un film qui regroupe les deux, hein. Ça s'appelle en anglais The Final Countdown, hein. Vous pouvez tous chanter la chanson, et voilà, mais en fait voilà, et en anglais, en français, c'était tout simplement Nimitz, retour vers l'enfer, et donc qui raconte l'histoire d'un porte-avions pris dans une sorte de faille spatio-temporelle, non, juste temporelle, et qui se retrouve qui évolue de nos jours et qui passe dans cette faille et se retrouve la veille du bombardement de Pearl Harbor, et donc avec un tel engin, il décide de changer le cours de l'histoire.
Tout l'équipage de ce bâtiment sait désormais qu'au radar comme au contact visuel, nous avons vu la flotte japonaise qui devait rallier Pearl Harbor le 6 décembre 1941. Alors que faire ?
Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de les envoyer par le fond corps et bien.
Ainsi, le USS Nimitz déclarerait la guerre à l'Empire japonais.
Parce que ça revient, ça.
Mais ils n'ont pas attaqué Pearl Harbor pour l'instant. La seule preuve de leur bellicisme est dans les manuels d'histoire.
Cela ouvre des perspectives absolument étonnantes. Vous imaginez la puissance de feu du Nimitz comparée aux forces de 1941?
Quelle perspective, monsieur Lasky?
Des perspectives futures, capitaine Owens. Songez à l'histoire des 40 années à venir.
Voilà, et donc on a Kurt Douglas, hein, absolument génial, en commandant du porte-avions. On a Martin Sheen, voilà, et c'est un super film de guerre. Bon, il a un peu vieilli, mais voilà, bon, c'est un film que j'aime bien voir de temps en temps. Que je revois, il y a des belles scènes d'avion avec des F-14 Tomcat comme dans Top Gun d'ailleurs.
Ouais, moi c'est un film que j'avais loué aussi. C'est une série B très sympa. C'est un vrai film de vidéoclub aussi. Hein.
Ouais.
Oui, ça a un peu vieilli, la fin un peu décevante, mais honnêtement, ça fait encore la blague aujourd'hui.
Je valide.
Dans le casting, il y a aussi, je sais pas si tu l'as cité, Martin Sheen. Voilà, c'est un film très sympa, encore une fois, voilà, c'est un vrai film du samedi soir qui fait encore qui fonctionne bien. Les effets spéciaux, moi je trouve qu'ils tiennent encore bien la route. Moi, je suis plus déçu par la fin, que je trouve un peu vite expédié. Mais l'idée de revenir dans le passé pour X raisons, alors là, ils le font de manière totalement involontaire et puis ils se retrouvent à la veille d'une bataille historique, mais voilà, il y a tout un fantasme autour du voyage dans le temps aussi qu'il y a dans ce film et qui fait que la blague fonctionne et voilà, comme tu l'as dit, Kurt Douglas est top dedans. C'est un film de 80, je crois, qui est sorti en 80. Oui. C'est le genre de série B qui, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est le genre de série B qui est passé totalement inaperçu en salle et qui a eu sa petite notoriété, son petit succès, et qui perdure encore chez les cinéphiles aujourd'hui quand ils sont sortis en cassette vidéo.
Je vais juste rajouter un petit truc parce que en fait, il y a, tu vois, c'est dont je disais les films de guerre, j'adore ça, les films d'avion, j'adore ça, mais en fait c'est un film qui a été inspiré par un autre film qui s'appelle Les Guerriers de l'Apocalypse,
qui raconte
justement c'est un film que j'adore, que j'ai découvert en vidéoclub évidemment, parce que c'est juste la jaquette de ce film, Les Guerriers de l'Apocalypse, avec le samouraï sur le soleil, c'était obligé de louer cette cassette, quoi.
Ouais.
Qui raconte une histoire d'une troupe de soldats japonais qui se retrouvent transportés en pleine guerre médiévale japonaise. Voilà, c'est exactement la même histoire, un peu vue différemment, mais je trouve la fin quand même du japonais un petit peu plus intéressante.
C'est vrai qu'il y a le concept de mélanger deux types de guerre technologique et puis justement la guerre qui est moins, enfin les guerriers qui sont moins munis de cette technologie là est intéressante par rapport à tout le discours que ça va véhiculer. Là, dans pas très longtemps, il va y avoir une sorte de spin-off de Predator qui utilise cette idée-là aussi, hein, qui s'appelle Prey, avec justement des Indiens qui se font traquer par le Predator. C'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement. Mais c'est vrai que je fais vachement le rapprochement, moi aussi, entre Les Guerriers de l'Apocalypse et Nimitz.
Nimitz, c'est une adaptation des Guerriers de l'Apocalypse.
Okay, d'accord, je savais pas. Et bon, après moi, les deux films, hein, d'ailleurs, Les Guerriers de l'Apocalypse et Nimitz, ça fait très longtemps que je les ai pas revus. Mais moi, je kiffais aussi, pareil. Je les ai vus en VHS, évidemment, c'était un gros hit de location, mais aussi sur la 5 et la 6. Pendant un long moment, ils ont été multidiffusés, tout ça, donc bon, on revenait un peu souvent dessus. Et ça faisait aussi partie des films qui étaient intéressants aussi de par leur durée, parce que ça tenait sur une cassette de 3 heures, on pouvait mettre deux films, quoi, voilà.
Bon, les gars, c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas cité le film de référence du genre, et qui les écrase totalement. Et écoutez.
Business.
Ouais.
Alors moi, je vais enchaîner sur l'un des meilleurs road movies des années 80 et certainement l'un des meilleurs films de John Hughes et certainement l'un de ses films les plus méconnus. John Hughes, souvent, quand on cite ce réalisateur, on parle de Breakfast Club, de Ferris Bueller, d'Une créature de rêve, mais on parle quasiment jamais d'Un ticket pour deux avec Steve Martin et John Candy.
On s'est déjà vu ? D'habitude, j'ai la mémoire des noms, mais là, pas moyen de me rappeler le vôtre.
Votre taxi, c'était le mien. Un taxi a stoppé parce que je l'avais appelé et pas le temps de rentrer dedans. Vous l'aviez volé.
Je peux vous offrir quelque chose pour me faire pardonner? Ça vous dirait un hot dog et une bière?
Non, merci.
Rien qu'un hot dog, alors.
Le fast-food, c'est pas vraiment mon style.
Un café?
Non.
Du lait?
Non.
Un soda?
Non.
Du thé?
Non.
Un verre de rhum?
Non.
Champagne?
Écoutez, j'ai pas soif.
Ce n'est que partie remise. Un grand coquin.
Alors l'histoire d'un ticket pour deux, c'est celle d'un homme qui est en déplacement professionnel à New York à la veille de Noël et qui doit rentrer chez lui à Chicago rejoindre sa famille pour passer le réveillon de Noël. Sauf que son avion est annulé pour cause d'intempéries, donc il va pas avoir d'autre choix que de traverser le pays par n'importe quel moyen pour rentrer à temps pour le soir de Noël. À l'aéroport, cet homme interprété par Steve Martin va rencontrer un autre homme qui est dans la même galère que lui. Et ils vont décider tous les deux de faire ce périple à travers les États-Unis. Sauf que le mec avec qui Steve Martin a accepté de voyager, qui lui est interprété par John Candy, est un véritable boulet. Et va lui en faire voir de toutes les couleurs pendant tout le voyage.
Écoutez, vous m'avez emmerdé dès New York.
Oh, et agressif. En somme, j'ai trouvé un compagnon de rêve, agressif, intolérant, le facho intégral.
Ah, là, ça suffit, hein. Vous arrosez de lit de bière, vous enfumez la pièce, vous faites une piscine dans la salle de bain.
Qui vous a trouvé cette chambre et je vous ai laissé payer pour que vous ne soyez pas un intrus, mais c'est ce que vous êtes.
Oh, c'est moi l'intrus?
Parfaitement. Je n'ai que des emmerdements depuis que vous me collez aux fesses.
C'est vous qui vous collez à moi, c'est vous qui me saoulez de vos paroles depuis le début du voyage, c'est pas vrai peut-être?
Vous vouliez me faire mal? Eh bien, vous avez réussi, bravo. C'est plus facile d'être un cynique. Pensez de moi tout le mal que vous voulez. Je ne vais pas me changer. C'est ainsi que je m'aime.
Les deux sont deux personnages totalement différents. Un qui est un peu pète sec et l'autre qui est totalement extravagant. Et au final, il va s'avérer que c'est... Alors, je ne vais pas spoiler, mais il va s'avérer que l'évolution de l'histoire va permettre d'humaniser le personnage qui était pète sec au contact de l'extravagant. Et voilà, et les deux sont absolument parfaits. Moi, personnellement, ces deux acteurs que j'adore, le regretté John Candy et Steve Martin, que voilà, c'est un de mes acteurs comiques préférés également.
Ouais, bah, moi, c'est un film que j'ai vu à l'époque. Voilà, je sais pas si je l'avais pas vu quand il est passé sur Canal, je pense. Ouais, bah, c'est des films que j'aime bien, que j'avais adoré, que je trouve très drôle. Et comme toi, j'adore John Candy, j'adore Steve Martin. Voilà, bon, c'est pas mon préféré, mais c'est un film que je trouve vraiment super.
Moi, il faudrait que je le revoie parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs à part me souvenir que le personnage de Candy, à un moment donné, on comprend qu'il est bon, il est un peu lourdingue, un peu bené, machin, etc. Mais en fait, il est assez attendrissant sur voilà la dernière partie. J'ai souvenir de ça, mais le film m'a pas plus marqué que ça, je vous avoue. Je sais que voilà, pour toi, c'est vraiment un film important, mais moi, c'est pas forcément une vraie marotte. Mais j'aimerais bien le revoir pour me refaire une idée et tout ça, parce que ça se trouve, ouais, je l'ai découvert. Je l'ai vu qu'une fois. Hein, je l'ai vu qu'une fois. Il y a très très,
oui,
très longtemps.
Oui, mais moi, c'est pareil. Voilà. Mais c'est le concept. De toute façon, c'est des films genre l'emmerde. En fait, c'est...
Ouais, c'est l'emmerdeur, c'est Midnight Run, c'est voilà, c'est tout ça quoi.
C'est un film que je revois une fois par an, réellement, parce que voilà, c'est, pour moi, c'est un buddy movie de comédie, l'un des plus réussis, que en tout cas à mes yeux. C'est un film extrêmement riche qui est très court, en fait il fait à peu près 1h25. Les gags sont parfaits, le tout est parfait pour moi, et je trouve dommage que c'est un film qu'on cite quasiment jamais, si ce n'est jamais, dans la filmographie de John Hughes, même si les autres que j'ai cités précédemment sont des excellents films et pour certains devenus cultes et pour des bonnes raisons, mais celui-ci mériterait aussi de faire partie de cette catégorie de films toujours cités de John Hughes, et il l'est pas, et c'est dommage.
Et c'est la fin de notre second retour vers le passé de la vidéo. A très vite pour la troisième et dernière partie de nos remises en lumière de quelques-unes de nos bandes magnétiques préférées.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis que le cinéma.
You talking to me?
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat?
C'était pas ma guerre!
Back in full force.
Quelle est votre devise?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.